Ravi de vous retrouver pour Mars et Vénus 2, l'aventure continue. On va parler de princes, de princesses. On va parler aussi de l'amour avec un grand A. Et de tous ces amours avec des petits A qui font de belles relations de couple. Et puis, on va parler d'une certaine tasse de chocolat chaud qui, à mon avis, pourrait peut-être bien changer le cours de votre vie. Rassurez-vous, on parlera aussi un peu de sexe.
Taz sur Radio Zénith. Tous les samedis de 18h à 19h, zénithez-vous.
Les hommes et les femmes se ressemblent si peu qu'on les croirait venus de deux planètes complètement différentes. Alors je pense que l'artiste aujourd'hui que j'ai le plaisir de recevoir ne va sûrement pas me contredire. Paul Revendre, bonjour.
Bonjour.
Revendre. Je suis ravie de vous rencontrer enfin. Le docteur Amour. j'aurais souhaité savoir deux, trois petites choses sur vous. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez atterri dans un domaine qui est complètement différent de votre parcours professionnel? Racontez-nous un petit peu.
Mais c'est probablement les hasards de la vie et aussi peut-être des blessures d'enfance et... En fait, c'est vrai que mon parcours ne me prédisposait pas à faire ce genre d'activité. Dans une première vie, j'avais créé une compagnie aérienne en Belgique, diplômée
d'une
école de commerce et d'ingénieur. Donc, rien à voir avec tout ça, la psychologie ni le théâtre. Et puis, donc, dans mon parcours de vie, j'ai assisté un peu par hasard à une conférence de John Gray il y a une vingtaine d'années aux États-Unis.
En 96.
J'étais marié depuis 3 ans à l'époque. Je m'entendais très bien avec ma femme. En 3 ans, ça va encore. On n'a pas encore eu le temps d'avoir trop de problèmes. Donc j'étais un peu sceptique, je trouvais que c'était un peu, les hommes, les femmes, ça peut mettre des gens dans des cases, on est chacun différent et tout ça, donc j'étais un peu dans toutes ces idées-là. Mais malgré tout, j'ai quand même été écouter ce qu'il avait à dire.
John Gray, pour ceux qui ne le savent pas,
Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et donc j'ai adoré, et j'ai, en entendant cette conférence, j'ai adoré ce que j'ai entendu. Parce que même si je m'entendais très bien, il y avait quand même des petites incompréhensions du quotidien, comme dans tous les couples. Pourquoi quand ma femme se lève le matin, elle va vers sa garde-robe, elle ouvre sa garde-robe et elle me dit « j'ai rien à me mettre devant sa garde-robe qui est pleine ». Et donc, c'est pas très grave, c'est pas pour ça qu'on va se séparer, mais c'est des petites incompréhensions du quotidien. Et là, j'ai vraiment compris qu'il y avait une autre logique que la mienne, il y avait une logique féminine, il y avait des raisons pour lesquelles elle parlait de ça.
C'est quoi? Vous avez acheté un petit décodeur, c'est
voilà, ça? j'ai acheté un dictionnaire, j'ai compris toutes ces choses-là et j'ai adoré ça. Et de fil en aiguille, j'ai créé des ateliers de communication sur ce thème que j'ai animé pendant une dizaine d'années.
Oui.
Et ça m'a touché par rapport à mon histoire, je le raconte dans les spectacles, c'est que mes parents sont séparés à ma naissance et jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai cru que mes parents étaient encore ensemble.
Est-ce que ça a joué, justement?
Et sûrement, c'est ça qui a fait que ça a joué, que je me suis passionné pour ce thème-là. Je vous disais tout à l'heure, c'était lié aussi à mon histoire personnelle et c'est vraiment l'envie profonde de partager des informations que j'avais trouvées utiles. Parce que je me dis que si ça peut aider des adultes à être plus vrais ou plus sincères dans leurs relations de couple, ça aidera peut-être les enfants qui vivent dans ces environnements-là et dans un environnement peut-être plus serein que ce que j'ai pu connaître quand j'étais plus jeune. Donc évidemment, je crois que c'est cette partie-là à fort jouer. Et c'est pour ça que j'ai toujours partagé ça de manière très... très simple et sans utiliser de mots psy et tout ça. C'était vraiment des choses qui m'avaient touché, que j'avais envie de partager autour de moi.
Vos spectacles sont pédagogiques, mais ils sont aussi drôlissimes.
Ouais, parce que justement, c'est important, mais c'est pas grave. C'est pas spécialement moyen. Il faut pas spécialement faire une science ou vouloir absolument parler ça de manière très sérieuse et tout. Moi, je trouve qu'il y a moyen de prendre ça un petit peu à la légère, mais c'est pas pour ça qu'on va. Justement, je crois que c'est aussi comme ça que les gens peuvent l'intégrer le plus facilement, c'est quand c'est dit aussi de manière drôle et légère. Et donc, il y a pas grand chose à faire. Parfois, c'est des petits ajustements qu'on peut faire.
Est-ce qu'il faut être un amoureux des relations humaines pour pouvoir écrire un spectacle de ce genre?
Il faut être un peu amoureux des relations humaines pour suivre ce parcours. Pendant 10 ans, j'ai animé des séminaires, des conférences là-dessus, donc pendant des week-ends où on était entre 15 et 50 couples. Donc oui, je pense que c'est vraiment un thème qui me passionne. Donc je pense que oui, il faut avoir quand même une certaine envie de partager ça et de ressentir que ça peut être utile. Mais je crois que c'est ça la sincérité aussi du spectacle qui a fait le succès du premier, du deuxième spectacle, parce que les gens se sont rendus compte que c'était au-delà du rire, il y avait une vraie envie de partager des choses qui sont importantes.
Alors, moi, j'ai appris que pour approfondir justement l'étude de ces différences entre les hommes et les femmes, vous avez dû retourner aux États-Unis. mais pour une nouvelle conférence.
J'ai travaillé avec John Gray. En fait, j'ai vraiment été passionné par ce que j'ai entendu de la première fois, mais il y avait 1500 personnes dans la salle, donc j'étais un quidam, j'ai acheté les livres et les cassettes à la sortie comme d'autres personnes, et puis j'ai commencé à peut-être tout ça, et j'ai eu l'idée de recontacter John Gray en lui disant j'ai envie de diffuser ces idées-là en français, mais je ne savais pas comment faire et tout, donc en fait j'ai invité 80 amis dans une salle d'hôtel que j'ai louée, dans une salle, dans un hôtel, en lui disant je vais vous parler de quelque chose, ne me posez pas de questions, venez. Et donc, ils sont venus et j'ai envoyé la cassette de ça. C'était encore, il n'y avait pas encore de DVD à l'époque, ni d'iPhone, ni d'appareil comme ça, ni d'Internet. J'ai envoyé la cassette de cette conférence à John Gray en lui disant, voilà ce que je suis capable de faire. Est-ce qu'il y a moyen de travailler ensemble pour que je diffuse ces idées-là en français?
Et qu'est-ce qu'il en a pensé?
Et donc, il a trouvé ça marrant comme idée. Puis, je suis retourné aux États-Unis. Là, j'ai travaillé un petit peu avec lui. Et puis, il m'a donné carte blanche pour développer ça, et donc depuis 20 ans maintenant.
Et alors, comment s'est fait ce cheminement dans votre esprit à l'époque? Parce que vous atterrissez dans une conférence un peu par hasard. Qu'est-ce qui a fait que on en fait aujourd'hui son métier?
Mais c'est vraiment l'envie de partager ça.
Oui, ça a été vraiment
un coup de foudre, vraiment une prise de conscience. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. En fait, avant, j'avais déjà entendu parler de Paul Salomon notamment, ou des auteurs comme ça qui parlent de l'homme solaire, la femme lunaire, du yin, du yang, de l'anima, de l'animus. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui tournent autour de ces notions de masculin-féminin, mais je trouve que c'était assez philosophique, c'était bien construit intellectuellement, mais je ne voyais pas comment le raccrocher au quotidien. Et vraiment, pour moi, ça a été John Gray qui m'a permis de comprendre comment mettre en pratique au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien un comportement féminin, parce qu'on dit c'est dans l'émotion et tout ça, mais oui, mais comment, pourquoi, comment réagir par rapport à ça?
Donnez-nous un exemple d'incompréhension.
Mais l'exemple majeur d'incompréhension, c'est justement quand une femme commence à parler, et dans son côté émotionnel, elle va commencer à parler de plein de problèmes, et l'homme ne va pas comprendre pourquoi elle a besoin d'épancher, de s'épancher comme
l'homme,
ça.
L'homme, c'est la solution.
Lui, c'est la solution. Et donc, il va arriver avec sa solution en pensant que c'est ce dont elle a besoin. Et donc, là, on se plante, mais parce qu'elle a besoin avant tout d'écoute et d'empathie à ce moment-là. Le besoin aussi très important, ce qui était très important aussi pour moi de comprendre, c'est le besoin des petites attentions pour une femme. En fait, au début, un homme est naturellement attentionné quand il drague, parce qu'il a envie de vous montrer comme il est grand, comme il est fort. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est ensemble, il se dit, OK, objectif atteint, c'est que je l'aime à faire classer. Parce que pour lui, les petites attentions...
Il est en représentation.
Voilà, non, mais non, en fait, c'est l'entretien d'embauche au début. Oui. Ouais. Mais après, une fois qu'on est ensemble, elle devrait savoir que je l'aime, parce que je l'aime, OK, c'est acquis, quoi, donc... On le voit très facilement, après quelques années de vie commune, une femme peut demander à son partenaire, est-ce que tu m'aimes encore?
Et c'est quoi la solution?
Et la réponse du mec, c'est dit, ben évidemment, parce que je suis là.
Donc forcément.
Donc oui, et puis si, donc évidemment, sinon je serais pas là si je t'aimais pas. Mais pour elle, c'est jamais acquis une fois pour toutes. Ouais. En fait, c'est ça, dans l'esprit masculin, c'est ok, on s'aime, c'est bon. Dans son esprit, elle, c'est toujours à travers les petites attentions au quotidien que ça s'entretient.
Le
secret, c'est pour un homme, c'est de garder ce rythme des petites attentions au quotidien, notamment quand il rentre le soir, c'est de la prendre dans les bras, c'est de l'écouter, c'est de faire un feu de temps en temps, c'est de lui dire quand elle change sa coiffure, de la remarquer, de faire des petites surprises. Donc, c'est tout ce qu'il fait au début et qu'il arrête à un moment de faire, donc ça, il va continuer. Mais il n'arrête pas parce qu'il s'en fout, ou c'est pas parce qu'il aime plus, c'est ça je crois que le point crucial pour bien comprendre ça, c'est que il n'arrête pas par manque d'amour, il arrête parce qu'il pense que c'est plus utile, parce que lui n'a pas besoin de ça, c'est pas comme ça que lui se sent aimé. À l'inverse, la femme, elle a besoin de continuer à l'admirer, à l'encourager. Elle a besoin de continuer à l'encourager. Et très souvent, une femme ne se rend pas compte aussi qu'elle peut être un peu critique, elle devient un peu plus critique par rapport à une petite attention qui n'est pas la bonne. Tiens, il faudrait que tu fasses ça, fais pas comme ça, comme ça. Donc des petites remarques pour l'améliorer, tout ça. Et petit à petit, ça peut commencer aussi à agacer un petit peu l'homme qui va en faire de moins en moins. Et puis on rentre dans un cercle vicieux là-dedans.
Et racontez-nous un petit peu, Paul Levendre, quelle est la différence entre le 1 et le 2, alors, pour le coup?
Alors, pour le spectacle, donc le premier spectacle, j'ai commencé dans un petit café-théâtre, ça a été de 80 personnes, puis il y a eu un bouche-à-oreille incroyable, parce que c'est vraiment sur le bouche-à-oreille que le succès s'est construit. Et donc le premier, je l'ai joué 1400 fois pendant 7 ans. J'ai un peu plus d'un million et demi de personnes qui l'ont vu. Donc c'était un très très beau succès. Et mais il y a beaucoup de gens justement qui avaient vu le premier, qui disaient ah, j'ai envie d'avoir une suite. Quand est-ce que tu fais une suite et tout ça. Et puis j'avais aussi encore pas mal de choses à partager. Donc j'ai eu envie de faire ce numéro 2. Mais la différence, c'est la difficulté d'un numéro 2, c'est qu'il faut en même temps que ce soit la même chose, mais il faut que ce soit différent. Si c'est trop la même chose, on dit oh, ça va, il se répète. Mais si c'est trop différent, oui, non, mais j'aimais bien ce que j'ai vu la première fois. Donc c'est trouver un équilibre peu, qui est pas évident à trouver. J'ai tâtonné un petit peu pendant un an, mais maintenant l'équilibre est vraiment chouette. C'est dans la même veine de décrypter des situations du quotidien, mais l'environnement est tout à fait différent. Je suis plus un professeur, ce coup-ci, je suis un jardinier, parce que le couple, c'est comme un jardin.
Oui,
ça s'entretient au quotidien.
On enchaîne très bien. Vous me donnez la réplique, parce que ma prochaine question, c'était justement, est-ce que vous ne seriez pas un petit peu un jardinier de l'amour? Enfin, voilà. Un peu comme celui qui va nous apprendre à... qui va apprendre au couple à s'aimer et cultiver son amour.
Cultiver le jardin,
son
cultiver
amour.
L'amour, voilà, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est dans un univers de jardin, ce coup-ci. Je reprends quelques thèmes que j'avais abordés dans le premier, mais avec lesquels je vais un peu plus loin dans l'analyse et dans la réflexion. Et puis j'amène aussi évidemment plein de nouvelles idées, comme j'amène aussi les relations par enfant. Donc j'élargis, on n'est pas juste sur le couple ici, on est aussi un peu sur parents. Les enfants sont quand même souvent là.
Il y a les enfants, oui, dans un couple.
Ça crée aussi
des
petites tensions. Je parle des petites disputes au quotidien aussi, que je n'abordais pas du tout dans le premier. Une manière constructive de résoudre les petites disputes inévitables du quotidien. La manière de gérer le stress aussi, qui n'est pas la même. Enfin, donc, c'est vraiment dans, de nouveau, des différences de fonctionnement, d'amener le dictionnaire, d'amener plus de compréhension entre les hommes et les femmes à travers toute une série de situations, de petites histoires de tous les gens qui sont venus dans les ateliers de communication et qui m'ont partagé toutes ces histoires de ma vie personnelle aussi. Avec Corinne, on a 4 enfants aussi, donc il y a de la matière à partager.
Et est-ce que vous vous inspirez de vos propres expériences avec votre femme et vos enfants, et puis les expériences à côté, veux dire vos amis, vos proches?
On beaucoup de notre vie familiale, oui, et puis aussi tous les milliers de couples que j'ai rencontrés pendant des années. Alors, il y a des amis aussi, mais il y a aussi plein de gens que j'ai rencontrés au cours de toutes ces 10 années où j'ai animé des séminaires, des conférences. Et c'est vraiment, et c'est pour ça que c'est très, tout est vrai en fait là dans ce spectacle. Quand je parle de la gestion des petites disputes, j'ai une histoire un peu plus émouvante cette fois-ci, justement pour aider à comprendre quel est l'impact de notre histoire personnelle peut avoir par rapport à l'éducation des enfants ou aux colères qu'on peut avoir en fonction vis-à-vis de notre conjoint, notre partenaire ou nos enfants. Donc ça éclaire assez bien, les gens sont vraiment ravis à la sortie.
Et alors, au final, est-ce qu'on peut les mettre dans la même planète?
Oui,
c'est deux extraterrestres.
Mais c'est justement, l'idée ici, c'est que en fait, les pôles masculin et féminin sont comme deux aimants. Et c'est parce qu'ils sont opposés qu'ils s'attirent. Les deux pôles plus ne s'attirent pas, donc c'est vraiment dans la différence qu'on va trouver l'attraction. Et donc les différences ne sont pas là pour nous séparer, elles sont plutôt là pour nous unir.
Mais quel est le secret alors, dites-nous?
Mais le secret, c'est d'accepter les différences, justement, de ne pas vouloir les changer, de les comprendre. Pourquoi on est souvent on est frustré par rapport à ces différences, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne les accepte pas. À un moment donné, quand on les accepte et qu'on comprend pourquoi, quand on sait que si l'autre fonctionne comme ça, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, ce n'est pas parce qu'il s'en fout, c'est juste parce qu'on est différent. Mais ça permet d'être un petit peu plus indulgent vis-à-vis de son chéri ou de sa chérie et de voir aussi le bon côté de ces différences, parce que c'est ça qui crée aussi permet à chacun de grandir aussi personnellement, de devenir bilingue en soi, et puis aussi de trouver une belle harmonie dans un couple.
Et vous pensez que la communication serait également une solution ?
Mais la communication, oui, mais la communication, c'est là où il faut faire attention. Beaucoup de femmes trouvent que la communication, c'est de parler, évidemment. Oui. Mais pour un homme, la communication, c'est aussi parfois se taire. Et d'accepter qu'on puisse ne pas parler tout de suite. Ou accepter aussi qu'on puisse prendre le temps, peut-être parfois, de ruminer un peu dans son coin avant de parler. Donc, c'est pas communiquer, dire n'importe quoi. Je pense que toute vérité n'est pas bonne à dire n'importe quand. Je sais que si Corinne se lève le matin, elle va vers ses vêtements, elle dit « Trouve pas que j'ai un peu grossi ?» Je pense pas qu'il faut que je dise la vérité. Hein. Donc, parfois, il faut un peu biaiser aussi. Donc, c'est dans la même veine. C'est important de respecter la manière de fonctionner de l'autre et de ne pas forcer toujours à parler.
Alors, pour nos auditeurs qui veulent venir voir votre spectacle, vous êtes au théâtre du Gymnase jusqu'à quand ?
Jusqu'au début janvier.
Le jeudi et vendredi ?
Donc, vendredi et samedi.
Vendredi et samedi ?
Donc, vendredi et samedi à 19h jusqu'au 8 janvier. Et pas pendant la semaine de Noël. Donc, s'il y a quelques dates comme ça, ça s'est mis un peu à la dernière minute. Il y a eu cette possibilité de venir jouer ici. Normalement, je suis en tournée jusqu'en juin, un peu partout en France, mais il y a eu cette petite ouverture pour revenir jouer quelques dates au Gymnase.
Donc, je pense que les Parisiens seront heureux. En tout cas, Paul Levente, merci beaucoup.
Merci
de votre accueil. Et puis, j'espère à très bientôt. Et puis, est-ce que on peut songer à un 3 ou pas aujourd'hui ?
Je ne sais pas encore. Le premier, j'ai joué 7 ans. Celui-ci, ça fait 2 ans et demi que je joue, donc j'ai encore un peu de marge.
Super. à très bientôt.
Et voilà.